Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à l'épisode 27 de Sortie de zone. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui. Évidemment, Sortie de zone, c'est en collaboration avec les gars d'après qui sont avec nous. Guillaume Lefrançois qui est là. Salut, Guillaume.
Salut, Jérémy.
Philippe Quentin. Monsieur Quentin, comment allez-vous?
En pleine forme, Jérémy. Toi aussi, j'espère.
Ben oui, ça va très, très bien. Et notre collègue du 98.5, Jérémy Filosa qui est là. Salut, Philo.
Salut.
Bon, messieurs, on doit débuter avec cette défaite du Canadien hier 5-4 face aux Ducks d'Anaheim. Écoute, ça a parti croche. C'est revenu. C'était correct. On a senti que le Canadien était là. Mais, le jeune Caden Primo, sorti pour une quatrième fois en 7 départs. Sincèrement, là, ça regarde pas bien pour le jeune. Je veux, à tour de table, votre point de vue là-dessus. Je commence avec Philippe.
Dans la Ligue américaine, moi, je pense qu'il y a trop de joueurs de cette équipe-là qui devraient être dans la Ligue américaine à l'heure actuelle. Je pense que Caulfield devrait être dans la Ligue américaine. Romanov, peut-être pas, mais là, ça va vraiment pas bien non plus. Puis Primo, clairement, je pense que là, sa confiance est certainement très affectée. C'est peut-être le pire moment pour un jeune gardien, arriver au sein d'une équipe perdante, une équipe qui a une défensive qui est vraiment pas adéquate. Et là, tu lui dis, vas-y mon jeune, va nous montrer de quoi t'es capable, va nous montrer que c'est toi le gardien d'avenir. Tu sais, et au fond, c'est encore pire à Montréal, parce que c'est, va nous montrer que tu seras le digne successeur de Carey Price. Tu sais, c'est pas évident, là. Lui, il arrive dans cet environnement-là, il doit seulement penser à ça. Alors, pour moi, c'est vite, sauvons-le de ses expériences néfastes. Envoyons-le dans la Ligue américaine rapidement, puis qu'il termine la saison là-bas.
Guillaume?
Oui, tout à fait, dans la Ligue américaine, aucun doute. Le problème, c'est que t'as besoin, puis là, je m'excuse l'expression, t'as besoin d'un gardien chair à canon en ce moment. T'as besoin de quelqu'un, tu sais, Montembeau, ça va, il est capable de se maintenir à flot, il est capable de tenir le coup, il a même, je pense, élevé son jeu. Ça t'en prend un deuxième comme ça, et ce gardien chair à canon-là, ça peut pas être le gars que tu vois comme un de tes futurs prospect comme gardien. Donc, qu'est-ce que ça te laisse comme option? Ça te laisse Michael McNevin, qui a pas beaucoup
Kevin
d'expérience.
Kevin Poulin pourrait être l'option aussi.
C'est ça. T'as Kevin Poulin comme option à l'interne. Par contre, lui, tu dois lui faire signer un contrat de la Ligue nationale. Lui, en ce moment, il y a un contrat de Ligue américaine seulement. Donc, tu dois négocier une nouvelle entente avec lui. C'est moyen de le faire, effectivement. C'est un autre cas où tu le laissais. Puis tu regardes vas-y, montre-nous ce que tu peux faire. C'est quand même un professionnel depuis des années qui a joué dans la Ligue nationale il y a une dizaine d'années. Ça reste que c'est ça l'idéal, parce que sinon, si tu vas à l'externe, pourquoi aller sacrifier un choix de quatrième tour, on va dire, pour aller chercher un gardien cinquième tour, quand t'es dans une dynamique où tu veux accumuler les choix repêchage, ça tient pas la route. Puis, il y a d'autres équipes qui en cherchent aussi des gardiens. Il y a aucune équipe qui va faire une fleur aux gardiens, là. T'sais, un nom qu'on voit souvent passer, c'est Louis Domingue. Bon, il est blessé en ce moment, mais t'sais, les gens disent, t'sais, Louis Domingue, bon, c'est un bon numéro 3 à Pittsburgh, là. Eux, ils ont Tristan Jarry, ils ont Gacy DeSmith. Mais pourquoi les Pingouins feraient ce cadeau-là aux Canadiens de leur donner Louis Domingue comme ça?
J'ai vu Dominique également, puis on pensait à lui pour l'équipe canadienne pour les Jeux Olympiques. Je sais pas si vous avez vu les images, je pense qu'il a pris un petit peu de poids. Le gars, ça fait un petit peu trop longtemps qu'il est arrêté, sincèrement. Il a pas l'air d'une grande forme. Philo, ton point de vue sur Caden Primo?
Ben, écoute. C'est sûr que là, présentement, c'est pas très bon, parce que tu le retires 4 fois en 7 matchs. C'est sûr que ça affecte sa confiance. Tu sais, clairement, il est pas prêt. Dans un monde idéal, il serait pas là. Je pense qu'ils sont un peu pris, là, et c'est la raison pourquoi il est là présentement. Je pense que d'ici quelques années, tu sais, il va s'en remettre de ça, là. C'est pas grave, là. Mais il faut qu'il retourne le plus rapidement possible, à Laval. Moi, je suis d'accord avec vous. Tu sais, l'acquisition d'un autre gardien, j'y crois pas. S'il faut y aller avec Michael McNevin, ben, que ce soit Michael McNevin, parce que de toute façon, on s'en va où, anyway. J'aime mieux que ce soit McNevin qui soit là, qui se fasse ébranler, tu sais, possiblement, que le gars, justement, qu'on voit comme gardien numéro 1 avec l'équipe, là, pour les prochaines années.
Puis, okay. Faut pas oublier aussi que le Rocket de Laval a une course aux séries qui s'en vient.
Ben oui, exact.
Ça peut être une super belle expérience d'apprentissage pour Primo, parce qu'oubliez pas, en plus, Primo, lui, il n'y en a pas eu de série dans la Ligue américaine ces 2 premières années. La première année, c'est celle qui a fini au mois de mars à cause de la pandémie, puis l'an passé, il n'y a pas eu de série dans la Ligue américaine. Donc, tu sais, ça peut être une super belle expérience pour lui aussi à vivre. Le Rocket est 4e dans sa division en ce moment, est au cœur de la lutte. Donc, tu sais, il y a ce bénéfice-là aussi pour son développement.
Est-ce que tu me permets d'ajouter quelque chose, Jérémy? Oui. Tu sais, l'ancienne administration, on lui a beaucoup reproché de mal développer les jeunes, de pas prendre les bonnes décisions, beaucoup d'incertitudes aussi. Galchenyuk, un centre ou un ailier, après 4 ans, il n'était pas encore branché. Tu sais, il y a eu beaucoup de ces cas-là. Là, faudrait que la nouvelle administration pose des gestes concrets pour montrer qu'ils sont capables de gérer les jeunes, eux autres. Et Primo, à mon avis, c'est leur premier défi.
OK, je trouve ça intéressant. Moi, j'ajoute à tout ça une torieuse question que j'ai posée à Stéphane White un moment donné. Ça se peut-tu que Caden Primo, ça soit pas l'élu, là, gars?
Ça se peut.
Parce que, clairement, nonobstant si ton club joue mal devant toi, il y a des buts que t'es pas supposé accorder et t'es supposé d'avoir la force. Je dis pas qu'il y a pas la force mentale, mais par moment, on le sent sur ses genoux, on le sent profondément dans son filet. Ça se peut-tu que les visées pour Kaden Primeau, ça soit pas ça?
Ben, je pense que les deux dernières années ont pas aidé, là. Comme on vient de mentionner, écoute, tu sais, ça a été des années saccadées, ça a été des années où l'évolution, l'apprentissage a été stoppé. Ça a sûrement pas aidé Kaden Primeau non plus. Moi, je suis prêt à lui donner encore du temps. Il est encore jeune, mais c'est vrai. Ça se peut que ce soit pas lui.
Mais lui donner du temps, c'est pas juste repousser le problème à un moment donné qu'il va falloir arriver peut-être à une conclusion qui est... Ben, c'est peut-être ça. Là.
Peut-être qu'on va se rendre là d'ici... Ouais.
On a tendance à surévaluer les jeunes avec le Canadien. Je parle pas nécessairement de l'administration, sans doute un peu l'administration, mais les fans, les analystes. Cole Caulfield, au début de l'année, un candidat pour le trophée Calder, c'est sûr.
Non, c'est la faute à Trevor Zegras. Ouais, c'est Zegras qui a dit ça.
C'est, ben des gens le passent.
Ben oui.
Suzuki, 8,5 millions déjà pour 8 ans après une saison encourageante. Romanov, après 3 mois cette année, là, c'était le gars. Oups, là, on est comme moins sûr. Probablement qu'il va devenir bon, mais on a tendance à être impatient et aller voir plus gros peut-être qu'ils vont le devenir. Et donc, je te rejoins sur Primeau. Oui, c'est possible qu'il devienne un gardien ordinaire. Maintenant, il est trop tôt pour conclure ça, évidemment, mais c'est possible. Moi, je trouve qu'on a tendance souvent à surévaluer.
Écoute, j'écoutais Mario Langlois juste avant le début de la saison, qui avait fait une ligne ouverte sur Caulfield, puis il demandait, c'est la question, c'est combien de buts pour Caulfield cette année? Moi, j'avais dit une quinzaine, mais je suis complètement dans le champ. Ben, le problème, c'est que les autres qui appelaient, c'était 20, 25, 30 et plus.
Moi, j'avais dit entre 15 et 20. Sincèrement, je pensais que ce jeune-là était capable d'aller entre 15 et 20 filets. Il y en a un. Hey, c'est fou quand même, là.
C'est fou.
Un but, seul but, et c'est pas qu'il a pas essayé, et c'est pas qu'on lui a pas donné du temps de glace intéressant. Un seul filet. Puis souviens-toi, Guillaume, on en a parlé, comment même lui doit pas comprendre qu'est-ce qui se passe présentement, là.
C'est hallucinant. Puis toute sa vie, lui, c'est un gars que toute sa vie, il a marqué pas loin d'un but par match ou à peu près aux autres niveaux, sinon un but aux deux matchs. Là, tu te ramasses à un but en 30 matchs, et c'est complètement fou. Si nous, on se pose des questions, imaginez-vous lui.
Non, mais là, c'est là le travail que l'organisation, justement, doit faire avec le jeune, puis d'y faire comprendre que c'est pas en claquant des doigts que tu passes de marquer un but par match au niveau universitaire, puis que tu vas arriver dans la Ligue nationale, puis tu vas produire de la même façon. Ça prend du temps. Puis il y en a pour qui, là, ils s'en remettent jamais, puis ils sont pas capables de passer par-dessus.
Excuse-moi, je t'interromps, Philo, mais il y a une question de confiance. Je peux comprendre pour l'ensemble du jeu sur la patinoire, il y a du travail à faire, mais offensivement, on voit que les options sont là. Malheureusement, sa confiance à lui n'est pas là. La confiance qu'il avait en son lancer du poignet, son lancer sur réception, c'était immense. Souvenez-vous, dans les séries l'an passé. Et là, présentement, rate la rondelle, passe par-dessus la rondelle. Tu sais, clairement, il y a une question de confiance dans le cas de Cole Caulfield. Bon, parlons de l'ami de Cole Caulfield, Trevor Zegras, hier, qui y va avec un geste spectaculaire, un fameux Michigan, lorsqu'on prend la rondelle, on la met sur sa palette, et déjoue Samuel Montembeau, qui venait d'arriver dans le match. Moi, je pose la question. Est-ce que vous trouvez ça? Je sais que ça a été posé 150 fois, mais je tiens à débattre de ça avec vous. Spectaculaire ou hot dog? Votre point de vue là-dessus? Je vais commencer, d'après moi, spectaculaire. Philo?
Spectaculaire.
Ben c'est clair, je le savais.
Écoute, j'ai pas l'habitude de planter mes compatriotes italiens, mais John Tortorella doit faire de l'urticaire en regardant ça. Lui, ça a pas de maudit bon sens. Mais tu sais, sérieusement, tu sais, je regardais le week-end du Super Bowl la semaine dernière, le spectacle qu'on nous a offert. Puis des fois, j'ai comme l'impression que dans le monde du sport, on oublie que c'est un spectacle. Puis si t'es pas capable de faire lever les gens de leur siège, tu vas les perdre. Et ça, ce but-là, là, juste les gens là qui ont regardé ce match-là, ils doivent se dire hier, sais-tu quoi? Ça a peut-être pas été un grand match, le Canadien a perdu, mais j'ai vu tout un but, puis tu sais, ça a été spectaculaire quand je l'ai vu. Ça vaut la peine de continuer à regarder, donc ça en prend plus de ça. Puis souvent, les coachs, ils viennent fous, là, ils en font des boutons. Essaye pas ça durant un match, dans la pratique, ça va, mais essaye pas ça devant... Si tu rates ton coup, tu vas avoir de l'air fou, puis... Ouais, donc, c'était un show.
Clairement, lui, il était là pour le show. Ben, ça, c'est sûr. Ça. Et voilà. L'occasion était là. Guillaume, spectaculaire ou hot dog?
Spectaculaire et aucun problème avec ça. C'est légal. C'est pas dangereux. Tu dois garder ton bâton de toute façon plus bas que la barre transversale. Donc, c'est pas un geste qui est dangereux non plus. Ça a fonctionné pour lui. C'est sûr que oui, il faut que tu sois conscient. Oui, tu peux avoir la fou si tu le rates, mais même si tu le rates, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, tu prends un tir si tu prends un tir normal, là, t'as une chance sur 11 à peu près de marquer. Donc, tu sais, je veux dire, de toute façon, là, il y a tout tire au but, ça arrive que ça marche pas. C'est sûr que ce type-là, ça, t'as l'air plus fou si ça marche pas, mais absolument aucun problème avec ça. Le jeune a les habiletés pour le faire, il joue avec confiance, tout ça. Aucun problème. Puis si ça se trouve, ça va simplement, tu sais, une fois qu'il va l'avoir fait quelques fois, ça va forcer les défenses à s'ajuster à lui, à jouer différemment. Ça va peut-être lui ouvrir d'autres options quand tu vas être autour du filet. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est comme ça que le jeu évolue.
OK. Philippe?
Ah oui, ben, j'abonde dans le sens de Guillaume et Philo entièrement. Tu sais, comme le dit très bien Philo, c'est un spectacle, là, hockey, là. Puis là, le Canadien, c'est plate, là, ces temps-ci, là. Ils sont plus dans la course en série. Il se passe pas grand-chose dans les matchs. Hier, ça a été le moment de la rencontre. Bon, des buts comme ça, il en marquera pas un à tous les matchs non plus. Tu sais, ça fait partie des jeux spectaculaires.
C'est quand même son deuxième.
Ouais,
on avait vu, là,
c'est ça. Mais c'est comme au baseball, tu vas voir un vol de marbre. Combien de fois tu vois ça dans l'année? Une fois, deux fois, peut-être. Au basket, t'as une coupe de jeu spectaculaire, là. On a vu un récemment encore qui a fait le tour de l'Internet. Le gars qui bloque le ballon, qui allait rentrer puis qui revire ça de bord. Tu sais, c'est ça qui fait que le sport est intéressant. Alors, moi, ben oui, je suis entièrement en faveur.
Oui, c'est très drôle parce que pendant même qu'on se parle, j'ai un lecteur qui m'écrit, un monsieur Tremblay, qui m'écrit souvent puis qui est un petit peu plus de la vieille école. Le but de Zegras, c'est un but Mickey Mouse. Ça m'impressionne pas pantoute. La Ligue devrait mettre un règlement pour bannir ça. Ben si ouais, je voulais voir des trick shots, j'irais voir les Harlem Globetrotters.
Ah oui, enfin, enfin. Là, je vous dis mon point de vue. Okay? Je pense que le jeune, sincèrement, là, il est rempli de talent, puis c'est spectaculaire ce qu'il fait, puis c'est numéro un, puis je sais que vous aimez ça, puis il n'y a pas de problème. Moi, je suis un joueur sur la glace, je vous garantis que j'aurais pris un petit deux dessus. Je veux pas dire que je suis un homme de Néandertal, mais ça fait sortir le Néandertal en moi qu'en plus, t'es un club qui va nulle part, qui se fait dominer, et que là, imaginez-vous, tu vas passer dans les highlights pendant combien d'années, Montembeau, l'ensemble de la défensive qui dormait, qui regardait Zegras. Si moi, je m'appelle Savard, David Savard, c'est sûr que je prends un petit deux dessus. J'ai trouvé hier, sincèrement, là, j'ai trouvé hier qu'on a manqué à ça. On n'a pas répliqué là-dessus. Et je dis pas d'aller le frapper, de donner un double échec, d'être hyper agressif envers lui, mais je trouve qu'on a manqué à répliquer. On a manqué cette réplique-là. En plus, il a marqué un deuxième but. Ça en va. Attitude. Mais... va se coller le dos bâton. À la bande.
Oh, oh le petit truc du bâton. Mais c'est ça. Un empêche pas l'autre. Je pense qu'on peut être... on peut être pour le but, pour la capacité de Zegras de le faire, tout en se disant, par contre, si j'étais un joueur de l'autre équipe,
aïe, aïe.
Tu répliques à ça.
T'aimais où la limite, Jérémy? Là, quand Serge Chavard faisait son spinorama, là, on aurait-tu dit, c'est Denis. Épouvantable. Serge qui a comme inventé le spinorama. Il l'a fait dans la série du siècle en 72, puis après, Denis Savard le fait aussi, puis le premier qui l'a fait, c'est Doug Harvey. Mais cela dit, est-ce qu'on aurait dû leur dire d'arrêter ça? Tu fais mal paraître l'adversaire. Voyons, ils s'attendaient à ce que tu continues. T'as fait un tour de 360 sur toi puis t'es reparti. Ouais. Arrête ça, c'est pas correct. C'est un trick play, c'est les Harlem Globetrotters. Quand Mario Lemieux en déjouait 3-4, la puck entre les jambes puis qu'il revenait puis le bâton par-dessus, on aurait dû lui dire, Mario, arrête ça, tu fais mal paraître le défenseur adverse. Voyons donc, c'est pas ça l'hockey. C'est une passe sur la palette pis un ancien.
Il y a une chose, les gars, qu'il faut comprendre, c'est que le sport aujourd'hui, il ne se vend plus par assieds-toi dans ton sofa puis regarde une game pendant 3 heures. Nos jeunes, nos enfants, ce qu'ils remarquent, c'est les faits saillants sur TikTok, sur Instagram. Puis là, on va aller chercher plus d'abonnés, plus de views, comme on dit. Et ce vidéo-là, là, il va passer en boucle des millions et des millions de fois parce que mon fils va l'envoyer à son ami, puis son ami va l'envoyer à l'autre, puis ils vont tous le voir. Et pour le hockey... c'est winner, c'est vendeur.
Je comprends ça et je suis d'accord avec toi là-dessus. Point de vue business, c'est très bon. Maintenant, juste revenir. Serge Chavard, quand il faisait ça, c'était un 360. Il se tournait pas à rondelle sur le bout de la tête puis il commençait pas à jouer wacky avec la rondelle.
Ben
c'est
oui,
pas ça qu'il faisait.
Il contrôlait, ben oui.
Je suis d'accord avec toi, il faisait un 360. Si t'es assez dupe pour te laisser prendre, ben tu payes le prix. Sauf que là, c'est un truc sur la glace dehors. Est-ce même Wayne Gretzky, qui aurait pu faire ça facile, selon moi, n'a jamais fait ça au hockey. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain respect de l'adversaire. Et en plus, je pense que quand Serge Chavard décidait de faire ça, il n'y a personne qui pouvait aller voir Serge Chavard. Là, tu t'appelles Trevor Zegras. Et ça se peut que quelqu'un aille te voir. Souvenez-vous, attends, juste rajouter. Trevor Zegras, après qu'il ait fait son petit geste, là, le lob, c'est Milano, je pense qu'il a marqué devant le filet. Ouais. Lui, il a marqué en plus en tir de barrage par la suite, puis il est passé devant le banc de l'équipe adverse contre Columbus. Et là, il s'est comme mis un peu à narguer, tu sais. Et Columbus, après le match, tout le monde était voir Zegras pour dire « Hey, le kid, là, rembague dans tes bottines parce que t'es rendu ailleurs. » Fait que donc, ce que je veux dire, c'est oui au spectacle, Mais pour moi, dans son cas à lui, il y a une certaine limite. OK, j'ai de l'air rétrograde, je suis désolé.
Je vais faire une comparaison. Au baseball, là, jusqu'à tout récemment, si tu frappais un circuit, là, puis tu marchais pas droit vers le premier but où tu regardais.
Tu regardais la balle?
Ben, le prochain tour, c'était une rapide à hauteur du nez. Mais à un moment donné, le baseball, ils ont dit, oh, ça va faire ça. Si tu lances à l'intérieur comme ça, tu vas tout de suite avoir un avertissement parce que, tu sais, c'est un show. Les gens viennent voir un spectacle. À un moment donné, il faut que tu sois capable d'avaler ton ego puis dire, regarde, il a frappé un circuit contre moi, il a le droit de célébrer, puis c'est correct.
Et puis, si en plus, là, on apprend que Zebrus met la musique trop fort dans le vestiaire, ça va être épouvantable.
Il faudrait
que
tu joues pour
le
Canadien.
Il cherche le trouble en plus. Bon, OK, restons dans le vestiaire de l'équipe parce qu'il y a Jeff Gorton qui a parlé aux collègues Chaumont et Bernier du Journal Montréal, puis il a parlé de la reconstruction. Il a dit, tu sais, je regarde ça aller, puis ça se peut que ça demeure une option. Et puis souvenez-vous aussi, Kent Hughes en a parlé, tu sais, c'est une option, on va voir comment ça va aller, puis je veux pas définir le mot, parce qu'ici, on veut jamais définir le mot, mais ça se peut que ça arrive, puis sais-tu quoi, ça se peut que ça prenne du temps. Messieurs, est-ce que Montréal peut être patient pour une reconstruction? Moi, je fais le Guillaume.
Ben oui, si le plan est bien annoncé, je pense que ce qui joue beaucoup en faveur de Gorton, c'est de dire, ben c'est pas à lui de le dire, mais les gens vont pouvoir constater, regarder ce qui se passe avec les Rangers.
Je trouve que c'est un mauvais comparatif, ça. C'est un mauvais comparatif parce que t'as amené Panarin là-dedans.
Oui, non, c'est ça, exact.
Panarin les Rangers change complètement la
donne. Oui, puis Adam Fox, puis Jacob Trouba. Voilà. T'as trois gars super importants qui voulaient jouer spécifiquement à New York. Ça
change la donne.
Ça reste que c'est ça, il y a son modèle de succès avec les Rangers. Et, tu sais, je veux dire, donc oui, il y a eu ce raccourci-là, mais maintenant, c'est à lui et c'est à Kent Hughes de trouver ces autres raccourcis-là pour Montréal. Je veux dire, c'est à eux, en tant que dirigeant, de trouver des façons d'aller chercher des joueurs dans leur prime, à l'apogée de leur carrière, qui veulent venir, qui veulent faire une différence et qui permettraient d'accélérer la reconstruction. Mais, tu sais, je veux dire, ils ont annoncé un plan clair, ils l'ont mis à exécution. Lui-même s'est fait mettre dehors l'an passé, mais on voit très bien le résultat de son œuvre là, chez les Rangers.
Philo, est-ce qu'on est patient à Montréal pour ça?
Non, pas pantoute. Écoute...
C'est ça, tu me parlais de spectacle en plus.
C'est ça. Là, écoute, on a une équipe qui a fait la finale de la Coupe Stanley au mois de juillet. Puis durant l'automne, on avait des sièges vides au Centre Bell. Là, si tu t'embarques dans une reconstruction, la première chose, c'est il y a raison de dire que ça va prendre du temps. Parce que tu as tellement de joueurs qui sont signés pour tellement d'années, pour beaucoup d'argent, que tu pourras pas d'un coup arracher le band-aid, comme on dit, puis recommencer. Tu sais, une reconstruction, une réelle reconstruction, ça peut prendre 5 ans. Tu sais, moi, je me souviens des Maple Leafs, il y a de ça peut-être une dizaine d'années où ils ont décidé, OK, on laisse partir tout le monde, on recommence à zéro, ça a pas fonctionné, là, ce que Brian Burke avait fait et tout ça. Ça a été très long. Puis, tu sais jamais si ça va marcher ou si ça marchera pas. Il y a des équipes qui ont fait des reconstructions, 5, 10, 10 ans, 12 ans plus tard, sont encore là-dedans parce qu'ils essayent de s'en sortir.
Les Oilers.
Et ils sont pas capables. Les Oilers, les Panthers, les Sabres.
Les Panthers, ça finit par marcher.
Ça marche
non,
pas.
Je comprends, oui, mais ils ont passé 20 ans sans faire les séries aussi en même temps. Donc, moi, je pense qu'il faut que tu y ailles année après année, il y a peut-être un ou deux ou même trois joueurs que tu peux laisser partir parce que tranquillement, pas vite, les contrats viennent à échéance puis tu les laisses partir puis à chaque année, tu évolues en ce sens-là, mais tu dois essayer de rester compétitif le plus possible. Philippe?
Ben moi, ce que Gorton a fait, ça me semble être un ballon d'essai, un petit peu comme un politicien là qui laisse entendre à un journaliste de la colline que le gouvernement va peut-être faire ça. Ça sort, puis là, on jauge les réactions puis on s'adapte selon ce que disent les commentateurs. On fait un sondage, puis tout ça. Je trouvais que Gorton, ça a l'air un petit peu de ça. Il va mentionner le mot reconstruction. Je suis certain qu'aujourd'hui, Chantal Maccabée est très alerte pour vérifier les réactions, qu'est-ce qui se dit à gauche, à droite, pour après faire un rapport à Gorton, puis dire, regarde, c'est une reconstruction, voici comment ça a été accueilli de façon générale. Moi, je pense que le Canadien fait ça, là. J'espère qu'ils le font. Cela dit, je pense qu'on est en reconstruction depuis des années, de toute façon. Les Canadiens n'ont pas participé aux séries pendant quoi? 4 fois en 5 ans? Puis 2 fois, ça a été en raison de la pandémie, ouais. Là, parce que les règles ont changé. Donc, cette équipe-là, dans les faits, elle essaie de se reconstruire depuis longtemps. Moi, je me souviens, en 2015, j'ai fait une assez longue entrevue avec Marc Bergevin. Puis Bergevin m'avait dit on ne pourrait jamais reconstruire à Montréal. Il dit si on avait les mêmes résultats que les Panthers ont eu. Tu parlais, Philo, des Panthers, c'est exactement l'exemple qu'il m'avait donné. Ils disent, regarde, ils ont choisi trois années dans les trois premiers, puis ils ont repêché des bons joueurs, puis malgré tout, ils font pas les séries. Ils disent à Montréal, ils disent, on peut même pas penser comme ça, ça fonctionnera jamais. Bizarrement, c'est après ça que les ennuis du Canadien ont commencé, puis qu'ils n'ont pas fait les séries, eux non plus, ils sont pas classés pendant plusieurs années. Alors moi, je pense que, écoute, est-ce que quelqu'un qui pense sérieusement que le Canadien est à un ou deux joueurs de devenir une puissance dans la Ligue nationale, là? Je pense pas. Là. Quand tes meilleurs joueurs sont vieillissants, sont moins, tu sais, Weber joue plus, Price, qu'est-ce que ça va donner? On verra bien. Gallagher, c'est plus le joueur que c'était. Tes piliers, là, sont Petrie. Plus là. Hein? Petrie, c'est il a l'air d'un gars qui est tanné, tu sais.
Mais je pense que Petrie, ça va plus loin que le hockey, là. Je pense que, tu sais, on voit les commentaires de sa conjointe d'après moi, là, tu sais, c'est...
Faut peut-être qu'il joue ailleurs, mais pour revenir à l'enjeu de la reconstruction, moi je pense que ça prend. Oui, il va falloir que cette équipe-là reconstruise, peu importe comment on l'appelle. Puis c'est une grosse réinitialisation, une petite reconstruction, peu importe. Faut presque que tu repartes à zéro, puisqu'en plus c'est tellement mal pris là. Tu regardes la masse salariale, c'est la plus haute de la Ligue nationale à l'heure actuelle. T'as une des deux pires équipes de la Ligue, puis t'as la plus haute masse salariale. Mm-hmm. Le plus gros défi de Gorton et Hughes là, pour moi là, d'ici les 6 prochains mois, c'est de réduire la masse salariale pour pouvoir embaucher d'autres joueurs en vue de la saison prochaine. Mais il faut qu'ils trouvent des solutions. Fait que les choix au repêchage qu'ils ont, là, moi, je pense qu'ils vont en passer avec des mauvais contrats. Je pense qu'ils vont donner des joueurs et des choix au repêchage pour passer
puis
des
mauvais contrats. D'accord avec toi là-dessus. Avec un plafond qui est stable présentement, ben oui, là, ça va être extrêmement difficile d'essayer de passer tes problèmes à quelqu'un d'autre.
Bon, ben, messieurs, écoutez, du côté des Flyers de Philadelphie, on a fait ça différemment. Il y a le vice-président de l'organisation ainsi que le directeur général qui ont été là en point de presse. Se sont excusés des mauvaises performances des Flyers. Ils ont dit, savez-vous quoi? Non, c'est pas une question de reconstruction. On est à un ou deux joueurs près d'avoir un club extrêmement compétitif. Cette année, on peut dire que c'est quelque chose de bizarre ce qui s'est passé, mais clairement, on croit en notre formation et on va redevenir compétitif. Il l'a dit ça en conférence de presse. Maintenant, chez Canadiens, tu l'as dit, Philippe, il y a une question de noyau. Ça prend un noyau solide pour bâtir alentour de tout ça. Donc, préparez-vous. On va ouvrir les pêches, on va aller chercher les noyaux et je veux savoir votre noyau du Canadien de Montréal, OK? Sur quoi on peut bâtir pour imaginer quelqu'un, une organisation compétitive au courant des prochaines années? On s'arrête quelques instants, restez là. On est de retour, 27e épisode du balado sortie zone en compagnie des gars de la presse qui sont là, Guillaume Lefrançois, Philippe Quentin, notre collègue Jérémy Filosa. Messieurs, avant d'aller à la pause, je vous demandais de fouiller profondément dans votre connaissance du hockey et de me sortir le noyau du Canadien. Quels sont ces joueurs que Gorton et Kent Hughes sont capables de se fier, de se baser pour dire cette équipe-là sera, avec ces joueurs-là, une formation compétitive au courant des prochaines années? Évidemment, j'ai goût d'enlever Nick Suzuki, parce que tout le monde va dire Nick Suzuki. OK? Fait que donc, ça nous pousse...
Est-ce qu'il va en rester?
Ça nous pousse à aller plus loin, OK? Fait que je vois Guillaume qui semble prêt. Guillaume, je commence avec toi. Ton noyau du Canadien, c'est quoi?
Ouais. Suzuki, évidemment. Je pense que comme centre offensif, t'as Suzuki. Je pense que comme centre défensif, tu continues à travailler sur lui, mais Jake Evans, je pense qu'il y a, tu sais, il y a le potentiel de stabiliser le bas de ta formation. Il y a le potentiel d'être un gars qui est capable de te donner de bonnes confrontations. Ça se fera pas du jour au lendemain, mais tu sais, si on parle de reconstruction, là, on s'attend pas à des résultats avant 2-3 ans. Je pense que, tu sais, Evans a le temps de continuer à progresser. Donc, je pense, pour stabiliser le bas de la formation, t'as lui. J'ai pas le choix de mettre Cole Caulfield. Pourquoi? Je sais qu'en ce moment, ça va très mal, mais on n'arrête pas de parler de la difficulté du Canadien d'aller chercher du talent supérieur, des joueurs aux habiletés offensives supérieures. Caulfield, il y a ça en lui. Ça sort tout croche en ce moment, mais, tu sais, on l'a quand même vu dans les séries l'année passée. Tu sais, je veux dire, disons, en tout cas, c'est clair que tu t'abandonnes pas sur lui, envoyez-le à Laval, ça, tu sais, je disais oui, ça va probablement devoir passer par un séjour à Laval.
Tu peux pas te priver de talent comme ça.
Mais c'est ça. Exact. Tu sais, il y a un tireur comme ça, je sais pas ça fait combien de temps que le Canadien n'a pas eu, même si en ce moment, ses tirs ne rentrent pas. Donc j'inclus lui aussi. Josh Anderson, je pense que c'est quelqu'un quand même, tu sais, premièrement, avec son contrat à long terme, t'es un peu pris avec de toute façon, mais tu sais, je pense que c'est un joueur que l'année passée en série, il a été utile, il a marqué des gros buts. Il n'a pas une grosse production de points, mais il t'a marqué des buts. C'est un gars qui a le fameux mélange de gabarit puis de vitesse qui est tellement dur à trouver dans la ligue. Mm-hmm. Je pense que c'en est un que tu gardes dans ton noyau aussi. Donc moi, à l'attaque, c'est ce que j'identifierais comme noyau. À défense, là, on a tendance à l'oublier, mais Joel Edmondson, c'est quand même un gars qui a 28 ans. Si sa blessure actuelle ne lui laisse pas de séquelles, je pense que c'est quelqu'un qui va être important dans cette brigade défensive-là. là pour assurer une espèce de transition. Il a vraiment été très bon l'an passé. Donc, tu sais, je pense que c'est un gars discrètement qui peut être important. Puis, dans le même sens que ce que j'ai dit pour Jake Evans, ben Alexander Romanov, même chose. Il est pas sur le point d'être un joueur d'impact, mais dans un horizon de 2 à 3 ans, je pense que c'est quelqu'un qui peut se développer puis être un gars qui va donner 19, 20 minutes. Deuxième paire, gars stable. Mm-hmm. Je pense qu'il y a assez de bons outils pour travailler avec lui puis faire partie éventuellement d'un noyau.
OK. Philo?
Bon, écoute, moi, il y a des gars que j'aime bien du côté du Canadien qui sont des gars établis puis qui sont des valeurs sûres dans qu'est-ce qu'ils sont capables de nous donner. Donc, moi, j'inclus Toffoli, Anderson, même Hoffman, Suzuki, tu l'as dit, c'est un naturel. Caulfield, on espère qu'il va se développer. Après ça, j'ai deux autres gars. Tu sais, Gallagher, tu viens de le mentionner, Philippe, tu sais, est-ce que c'est encore le même joueur? Est-ce qu'il est capable de redevenir un peu l'ombre de lui-même? Je le sais pas. Et moi, j'aime un gars comme Paul Byron qui coûte pas les yeux de la tête. C'est quand même peut-être un peu cher, mais moi, je pense que Paul Byron, en santé, peut redevenir le gars d'il y a 2-3 ans qu'on a beaucoup aimé.
Il avance quand même en âge, Paul Byron.
C'est sûr, t'as raison. Puis on va peut-être pouvoir l'évaluer au cours des prochaines semaines puis prendre une décision d'ici la date limite. Défensivement, Romanov, c'est sûr. Là, il y a un petit creux de vague pour lui présentement, mais Romanov, Edmondson, je partage l'opinion aussi de Guillaume. Puis ensuite de ça, les deux vétérans. T'sais, le Petrie de l'année passée, oui. Petrie de cette année, non. Comment tu sais pour savoir lequel va se présenter? Et si Sherrod veut rester, oui, moi, j'essaie d'y faire une place. Pour les autres, j'ai pas vraiment de... Tu sais, je pense qu'on peut y aller comme bon nous semble. J'ai pas non plus d'incontournable dans le filet. Là.
Philippe, je veux savoir, est-ce que Mike Hoffman, est-ce que Toffoli, est-ce que Drouin, est-ce que Petrie, ça peut faire partie d'un noyau, bien, ça, chez les Canadiens?
Bien sûr que non, bien sûr que non. Là, pour moi, c'est la question est très simple à répondre. Pour moi, le noyau du Canadien, là... D'abord, je vais définir ce que je comprends du mot noyau. Un noyau, pour moi, c'est la vieille expression, on disait les joueurs que tu veux pas échanger. Tu veux pas t'en départir sous aucun prétexte. T'as une très belle offre. Non, pas lui. Lui, je le garde. Moi, j'en vois deux. Je vois Suzuki puis Romanov. Malgré ce que j'ai dit sur Romanov, ses ennuis en début de
même
de podcast.
Caulfield.
Oh, Caulfield, moi, j'ai des gros doutes. Moi, les joueurs de son gabarit, là, je pense que ça va être très difficile pour lui. Puis je sais qu'on parlait d'Alex DeBrincat, mais regardez DeBrincat, là, il y a
DeBrincat patine plus que...
Il se met un petit peu plus gros aussi, j'ai tendance à dire ça.
Tu sais, il surveille Caulfield, ils l'ont surveillé. Tu dis, oui, il y a un bon lancer, il y a peut-être un petit peu moins de temps pour le décocher. Peut-être qu'il s'approche un petit peu moins qu'avant aussi, puis je pense pas que ça va s'améliorer beaucoup. Je l'ai vu jouer cette année, j'ai trouvé que des fois, il hésitait à aller se mettre un peu dans le trafic pour avoir un bon lancer. Je pense qu'il va falloir qu'il passe à travers ça. Je suis pas convaincu qu'il va réussir. Alors, Caulfield, pour moi, non, on remarque que ce serait pas un bon temps de l'échanger, puis là, sa valeur est pas élevée, mais bon. Cela dit, donc, pour moi, c'est ceux qui sont pas échangeables. Ceux que tu dis, non, eux, on veut pas les perdre. Alors, je mets Suzuki, puis je mets Romanov. Josh Anderson, je suis d'accord avec Guillaume à 100%. C'est un rare mélange de vitesse, de poids, d'enthousiasme. Je pense qu'il y a une bonne attitude aussi. Maintenant, si tu as une super belle offre pour Josh Anderson de la part d'un club qui peut gagner la Coupe Stanley l'an prochain, puis qui disent, hey, nous, là, c'est l'ailier qui nous manque. Là. Josh Anderson, c'est en plein un genre de power forward. Lui, il va nous aider. Hey, toi, tu ne gagneras pas. Là. Je pense pas que tu vas gagner. Il y a quel âge, Josh Anderson? Il
est rendu 27 ou 28.
Donc, quand le Canadien va revenir un peu, il va avoir 30-31. Tu sais, quand le Canadien, ça va prendre encore 2-3 ans avec le Canadien, à 30-31, est-ce qu'il va être aussi efficace? Souvent, les gars qui jouent dur comme lui, après 30 ans, hein, ça devient plus difficile. Alors moi, je pense que son maximum de valeur d'échange, c'est peut-être à l'heure actuelle. Alors pour moi, j'entretiendrai toutes les propositions, je les regarderai toutes, puis il y a seulement deux noms où je raccrocherai le téléphone, et c'est Suzuki et Romanov. Puis les autres, j'écouterai toutes les propositions.
Sauf qu'Anderson, c'est 6 saisons encore. Là,
c'est ça.
On inclut cette année, puis il y a une clause de non-mouvement aussi.
Exactement. Ouais. Mais il faut dire, dans le cas de Josh Anderson...
Il peut lever s'il est d'accord.
Définitivement. Mais dans le cas de Josh Anderson, moi, je le mets dans mon noyau parce que...
Oui, je comprends ça.
Souvenez-vous des propos de Kent Hughes, entre autres avec Martin McGuire, Danny Dubé, il a dit « Je veux des gars qui sont à l'ADN du Canadien de Montréal. » Et selon moi, Josh Anderson, des fois, a des périodes d'écran,
d'écran pour cerveau.
Des creux de vague. Là,
non, je veux dire, écran de veille. Voilà. C'est ce que je cherchais. Tu sais, c'est un ordinateur, l'écran de veille embarque, là, de fois, ce que je viens d'avoir, là. Mais, donc, écran de veille, ça veut dire que tu le vois pas pendant deux, tu sais, des fois, ça peut être deux semaines et demie, trois semaines. Mais, à un moment donné, pouf, ça sort, et c'est ce que t'as besoin d'un gars comme Josh Anderson. Fait que, donc, pour moi, je bâtis là-dedans parce qu'en plus, son contrat, selon moi, ça va être difficile à bouger. Si jamais quelqu'un veut Josh Anderson, écoute, si t'arrives à te débarrasser du contrat, bravo, là. Ça, c'est un coup de maître si on arrive à faire ça chez les Canadiens. Un gars comme Josh Anderson,
je suis obligé de dire Brendan Gallagher, même s'il est plus vieux, même s'il a été blessé, t'as pas le choix de garder la fougue de ce gars-là, même si c'est croche, même si c'est moins efficace. Il représente, selon moi, il représente ce que les gens aiment du hockey. Il représente un gars qui travaille toujours, un gars qui essaie, un gars qui réussit pas toujours, mais un gars qui lâche jamais. Pour moi, Brendan Gallagher fait partie du noyau. Et il y a un gars, je pense, puis j'entends à gauche et à droite, là, jusqu'à la date limite des transactions, son nom est partout. Ben Chiarot. OK? Ben Chiarot, pour moi, je mets mes billes sur Ben Chiarot. J'ai besoin de ce gars-là. Mais ce gars-là, présentement, a connu tout un début de saison. Et là, on le sent chancelant comme l'ensemble de la défensive. Mais un gars, tu sais, un gars que t'as attaché à ton club, Ben Chiarot peut te montrer qu'il est capable d'amener plus de leadership, puis t'as besoin de ce côté robuste-là. Edmondson amène pas ça. Edmondson bouge bien la rondelle, mais Chiarot est comme, tu sais, ça te prend...
Un petit, petit côté méchant.
Ça te prend du badass
là. Mais je suis d'accord avec toi, tu sais, sur papier, oui, je mettrais aussi Ben Chiarot dans mon noyau. Je pense que c'est quelqu'un qui amène du bien à cette équipe-là, mais je ne vois pas dans les circonstances actuelles pourquoi il s'engagerait à rester à Montréal et c'est à vivre sûr. Les, disons, trois années difficiles là, au minimum là, qui s'en viennent. Quand t'sais, il arrive au paroxysme là, de sa carrière, il arrive dans ses meilleures années, il a la chance lui d'aller faire quelque chose pendant 2-3 ans. Ça serait tout un...
Je pense aussi côté COVID, ça va être difficile de garder ces gars-là ici. T'sais, ils vont se dire, garde, je deviens joueur autonome, je peux choisir. Est-ce que je vais choisir de rester ici, ne sachant pas comment les choses vont se passer dans la prochaine année, deux années, trois années, je ne sais pas, ou je m'en vais en quelque part, ou justement, à ce niveau-là, c'est un problème de moins.
Cette histoire-là de COVID, là, je sais que ça fait quand même deux ans qu'on se dit ça, là, mais ça devrait à un moment donné terminer, je ne sais pas quand.
Ouais, hein. C'est ça. Je pense ça, c'est le genre d'affaire qui va peut-être plus laisser des traces pour des joueurs américains. Mais tu sais, comme Ben Chiarot qui vient de l'Ontario, je veux dire, s'il était chez lui en Ontario, ça serait pas mieux. Ça empêche pas les déplacements d'aller voir sa famille, tout ça. Donc, je sais pas si ça va être un facteur pour des joueurs canadiens, mais des joueurs américains, ça, c'est sûr que oui, ça pourrait.
Est-ce que vous attendez à date limite des transactions qu'il y ait beaucoup, beaucoup de mouvements? T'sais, nous, j'ai l'impression que les observateurs, les fans, tout le monde veut voir du mouvement. Mais est-ce que, selon vous, il y en aura beaucoup, Philippe?
Ça va dépendre du coup d'envoi qui va être donné à ça. Si une des 4-5 équipes qui est vraiment concurrente logique pour gagner la Coupe Stanley bouge, je dirais, 4 à 5 jours avant la date limite des transactions. On a déjà vu ça avec Tampa Bay il y a 2 ou 3 ans. Gros échange, aller chercher du renfort avec un joueur de location qui est disponible. Là, à ce moment-là, je crois beaucoup à l'effet domino. Et là, ça pourrait tomber vite et là, il pourrait avoir beaucoup de mouvements. Parce que c'est toujours comme ça, c'est le même phénomène à chaque année. Tu as une équipe concurrente qui menace pour la Coupe Stanley, qui fait un gros échange, une grosse transaction qui s'améliore rapidement avec un geste, les autres sont obligés de suivre. Parce que le directeur général, il faut qu'il envoie un message à ses joueurs. Puis quand tu le fais pas, ça te rebondit en pleine face. T'sais, c'est la même situation au baseball, puis Philo va s'en souvenir. Souviens-toi l'année où Antopoulos n'a pas bougé avant la date limite des transactions. Les Blue Jays étaient à 2,5 matchs de la tête. Le lendemain, dans le vestiaire, tout le monde avait la face basse. Les gars étaient tous découragés. Antopoulos y a appris. L'année d'après, il est allé chercher David Price puis l'arrêt court de Denver.
Tulowitzki.
Les deux, tu sais. Puis, écoute, ils sont partis sur une lancée, ils sont allés en série. Alors, il faut que tu envoies un message à tes joueurs. Puis, on le voit après chaque période de transaction. Tu sais, les joueurs, quand il n'y a pas de transaction, c'est tout le temps la tête basse qui disent « Ah, la direction nous a envoyé un message. Hein, ils ont confiance en notre groupe. » Mais t'es sans tout découragé. Alors que quand c'est les... « Ah, ils ont confiance en nous. Ils sont allés chercher Joe. » Puis là, Joe va venir
ouais,
nous aider.
T'as-tu un gars dans l'organisation du Canadien qui pourrait avoir cet effet-là ailleurs? Moi, pas convaincu. À part Carey Price, là.
Oui,
je veux dire, à part
ça. Oui. Ben, moi, je pense que oui.
C'est pas Ben Chiarot qui va arriver avec les Panthers à Floride puis ils vont faire «
Amène un Brendan Gallagher, toi, avec une équipe candidate à la Coupe Stanley. T'aimerais pas ça, toi,
d'accord
avoir
avec
Gallagher?
Toi. D'accord
ben,
avec toi.
Série.
T'aimerais ça, mais tu veux pas les 50 années de son contrat.
Voilà,
non, mais ça dépend. T'sais, si tu penses que t'as une chance de gagner cette année, parce que les chances de gagner la Coupe Stanley, t'en as une aux 20 ans. Profites-en quand t'en as une.
Mais moi ce qui... D'un côté, là, parce que, bon, évidemment, Kent Hughes, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. On connaît pas son historique, parce que c'est la première fois qu'il est DG. Jeff Gorton, par exemple, quand il a envoyé sa lettre... aux partisans des Rangers en 2018, là, ben, deux semaines après, il changeait Nick Holden, Michael Grabner, Rick Nash, Namesnikov, tout ça à l'intérieur de deux semaines, là, deux semaines après sa lettre. Donc, tu sais, il n'y a pas...
Mais les Rangers étaient dans une situation où ils pouvaient rapidement commencer à liquider.
Ben oui, c'est une chose d'être dans position, mais après ça, tu es assez agressif pour le faire. Lui, il l'a été à ce moment-là. Le bout qu'on sait pas, mais le bout qui a changé par rapport à cette époque-là, on en a parlé tantôt, c'est le plafond salarial qui est figé, qui fait en sorte aussi, par contre, que les équipes n'ont pas toutes la même flexibilité pour
moi, je pense que si tu veux te départir de certains joueurs cette année, plus que jamais, il y a des équipes qui va falloir qu'ils fassent des chèques. Il va falloir qu'ils disent, bon, mais j'accepte de payer 30%, 40% du salaire du joueur et, ben, garde, on passe à d'autres choses, on vous le sait.
Comme Philippe disait, tu rajoutes un choix là-dedans, prends mon contrat, merci, bonsoir. Mais votre collègue, Mathias Brunet, disait que dans le fond, c'est peut-être une fausse reconstruction chez les Canadiens parce qu'on n'a pas encore bougé, là. Tu sais, on n'a pas encore bougé. Ça te prend des joueurs. Puis je le sais que tout le monde voudrait faire reset puis change la cassette du jeu vidéo puis on amène quelqu'un d'autre au complet à nouveau au club. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des joueurs, malgré le fait que les partisans ou les observateurs trouvent que ces joueurs-là ne font plus partie de l'organisation du Canadien, ne devraient pas être là. Ils vont être là quand même.
La complexité est majeure pour le Canadien à cause de la situation du plafond salarial, à cause de la situation que ce sera pas facile d'amener des joueurs autonomes quand tu vas vouloir les amener. Tu as plusieurs joueurs qui sont signés pour plusieurs années et beaucoup d'argent. Donc, comme je disais en début d'émission, je pense que ça va être une transition qui va falloir qu'il se fasse tranquillement. Tu sais, ce qui peut-être va se faire sur 5 ans. Tu vas éplucher à chaque année, tu sais, des éléments que tu acceptes de laisser partir, mais ça pourra pas se faire d'un coup.
Et clairement, là, tu sais, du côté des Rangers, je reviens à Jeff Gorton. Là. Écoute, je rappelle, quand Panarin s'en va là, quand Adam Fox s'en va là, et tu sais, reconstruction, là, si vous voyez pas, là, ça, c'est mon œil. Tu sais, faites attention, là. Ça, ouais, c'est arrivé, là. Pop, comme ça, ça n'a pas été trop long, là. Tu sais, quand tu as le goût d'aller dans la ville, tu as le goût d'aller à New York.
C'est comme la dose de plus, là. C'est quoi? C'est, c'est ça.
Le booster.
Hey, messieurs, le Canadien va affronter les Oilers d'Edmonton. Et là, Evander Kane est maintenant rendu avec les Oilers d'Edmonton. Tout ça s'est fait en même temps avec un beau rapport de la Ligue nationale de hockey qui dit finalement, on n'est pas capable d'arriver à une conclusion sur oui ou non, Evander Kane a voyagé malgré le fait qu'il y avait la COVID puis tout ça. C'est drôle, mais les Oilers, c'est rempli de talent, mais tout le temps un peu croche. Est-ce que ça, on vient de poursuivre dans la même veine avec l'arrivée d'Evander Kane, Philippe?
Clairement, c'est une acquisition qui est un peu incompréhensible à sa face même. Ce gars-là, on le sait, là, c'est un gars qui apporte un certain nombre de difficultés avec lui. C'est rare que ça se passe bien. C'est un gars qui suscite la controverse. Je comprends pas comment une équipe comme Edmonton peut aller chercher un joueur comme lui. Je le verrais avec une équipe où le caractère des leaders est très, 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 très fort. Une équipe comme à Boston, par exemple, hein, tu sais, où tu as des leaders qui sont là depuis longtemps, des Patrice Bergeron et tout, qui iraient le voir en disant, regarde, tu sais, assis-toi ici.
Pas. Là, même à t'aime pas. Imaginez Kucherov qui arrive, qui disait, écoute, le kid.
Ouais, puis on vient d'en gagner deux, là. Ouais, on vient d'en gagner deux, des couples, là. Fait que, tu sais, fais ce qu'on te dit, puis ça va bien aller. Là, il arrive à Edmonton, tout est tout croche. On sait même pas s'ils vont participer aux séries, malgré le talent. C'est déception sur déception. Ils ont beau changer de directeur général, aller chercher des gros noms, ça fonctionne pas. Puis là, il arrive là. Je trouve que l'environnement pour lui est pas bon. Pour les Oilers, je trouve pas que c'est un geste très impressionnant.
Guillaume?
Ben, ça règle pas non plus leur problème qui est un problème de gardien, là, qui est, disons que c'est un...
T'aimes pas Koskinen, arrête!
Je suis pas un grand fan. Non, mais tu sais, il y a deux faiblesses qui ressortent des Oilers. C'est un problème de gardien. Avant, on disait qu'il y avait aussi un problème de défenseur, mais tu sais, je trouve quand même que ça, avec les années, ils ont corrigé. Mais devant le filet, c'est pas réglé. Et tu l'as dit, il y a un problème de leadership. Et Kane ne règle certainement pas le problème devant le filet et certainement pas le problème de leadership non plus. Donc, c'est comme si t'as une maison en Floride, tu t'ajoutes un abri tempo, là, ça sert à rien. Là. Oui, t'as une chose de plus, là, mais ça te sert absolument à rien. Donc, non, moi, je suis pas exactement impressionné. Là. Il y a de la force de frappe, il y en avait déjà assez. C'est un excellent attaquant, là, aucun doute, mais c'est pas, ça répond pas du tout à leurs besoins.
Philo?
Ben, je suis surpris parce que, tu sais, les Oilers, justement, je pense qu'ils ont commencé déjà à négocier pour Evander Kane dans une période où c'était vraiment dans un creux. Puis là, de penser que c'est lui qui va te sortir de ça. Écoute, j'espère qu'Evander Kane a appris des leçons, pris de la maturité, puis il va changer parce que c'est un joueur qui a un beau talent, mais la dernière place où je le voyais, c'était avec les Oilers d'Edmonton, puis s'ils ont des difficultés, c'est pas nécessairement en attaque. J'essaie de regarder là, sur Cap Friendly, c'est quoi le salaire qu'il va gagner? Je présume que c'est le minimum de la Ligue, là, mais il y a même, ça dit 0$.
Non, mais c'est un contrat. Je pense en argent, il va faire 1 million, mais sur le plafond, au prorata de ce qui reste, ça va donner un petit peu plus que 2 millions. Là, sous
2 millions?
Sous le plafond.
2 millions. Okay.
C'est ça, parce qu'il faut que tu ajustes au nombre de jours qui restent à la saison. Donc,
t'as l'air d'avoir un doute, Philo.
Mais non, 2 millions. Ben, ouais, moi, ça serait pas plus que le salaire minimum. Là. Honnêtement, après tout ce qui a passé dans les ligues mineures, là, il y a 2 semaines, là, veux dire, t'attends-tu de jouer ou ça te tente pas de jouer? Mais en tout cas, je sais pas. Je suis surpris, puis je pense pas que c'est la solution.
Messieurs, je vous lance une question comme ça qui vient de me sauter à l'esprit. Est-ce qu'une organisation, est-ce qu'un club peut connaître du succès quand son plus grand leader offensif est un petit peu égocentrique? Parce que j'ai l'impression que les clubs qui sont supposés de gagner ont souvent leurs meilleurs joueurs offensivement. Là, c'est des gars qui pensent beaucoup à leurs statistiques. McDavid, je pense qu'il pense à ses statistiques. Dites-moi pas qu'une fois de temps en temps, il joue en équipe, vous avez raison. Mais la majeure partie du temps, les stats de McDavid, d'après moi, sont plus importantes qu'à peu près tout ce qui se passe. Matthews, Austin Matthews avec les Leafs de Toronto. Est-ce qu'on peut connaître du succès quand ton grand leader offensif regarde sa fiche en premier?
C'est pas évident. J'avais vu passer il y a quelques semaines l'histoire de Steve Yzerman qui lui était justement réputé. Je sais pas dans quelle mesure c'était confirmé, mais que dans ses premières années à Détroit, il était réputé comme un gars qui accordait beaucoup d'importance à ses statistiques. Puis effectivement, il y avait une séquence de 6 saisons de suite de 100 points, une saison de 155, une saison de 137 points. C'était hallucinant. Et quand Scotty Bowman est arrivé, ses statistiques offensives ont diminué un peu, mais les Red Wings sont devenus un club gagnant, puis ils ont établi une culture gagnante, une tradition de victoire. Et c'est ça. Et puis l'histoire disait donc qu'en gros, Steve Yzerman Scotty Bowman avait réussi, dans le fond, à conscientiser un peu Steve Yzerman, puis à lui faire changer d'approche. Donc, tu sais, si c'est ta théorie se tient.
C'est peut-être ça le problème des Oilers. Avant même d'un gardien de but, là, c'est peut-être que ça part de là. Hein.
C'est une sacrée bonne question que tu poses. Hein. On pourrait en débattre longtemps, mais c'est là que tu vois combien c'est dommage pour un gars comme McDavid que les joueurs de la Ligue nationale ne participent pas au tournoi olympique. Parce que s'il est allé au tournoi olympique, il aurait côtoyé dans le même vestiaire, Crosby, puis tant de grandes vedettes. Puis en un mois avec eux, 3 semaines, un mois, il aurait appris des choses. Il aurait appris la préparation. Parce que tous les joueurs qui ont participé aux Jeux olympiques, là, ils reviennent, puis ils ont tout le temps des histoires à raconter en une semaine, là, quand tu vois à l'époque, les Niedermeyer, comment ils se préparaient. Puis ça, c'est les plus jeunes qui arrivaient à leur première présence, à chaque fois, là, ils regardaient ça, ils disaient, j'ai tellement appris en 2 semaines, en 3 semaines. Mmh. McDavid, il a joué dans la Coupe du monde de hockey, mais c'est avec l'équipe des jeunes, de 23 ans et moins, donc il n'y avait pas de modèle-là. Et puis là, il rate les Jeux olympique, puis c'est une belle occasion d'apprentissage qui rate, et ça, c'est dommage.
Dommage,
un
parce
peu,
que...
comme Barry Trotz et Ovechkin, à un moment donné, là, la conversation, si on recule il y a 5-6 ans, sa frustration qui accumulait, Crosby gagnait des coupes, pas lui, puis ouais. Barry Trotz a été capable de
faire passer l'équipe en premier.
Tu l'as gagné la coupe, si oui, ben...
Mais j'avoue qu'une participation aux Olympiques, ça change la dynamique, ça change ta perception de ce que c'est l'effort collectif. Et clairement, oui, t'as raison, Connor McDavid pourrait en profiter. Malheureusement, ça sera pas le cas. Mais il y a un gars qui est extrêmement heureux d'avoir cette opportunité-là. C'est son nom, c'est Mark Barberio. Et savez-vous quoi? Il va être avec nous au retour. Fait qu'on fait une courte pause, restez là. On est de retour à l'épisode 27 du balado Sortie de zone en compagnie des gars de la presse. Philippe Quentin qui est là, Guillaume Lefrançois, notre collègue Jérémy Filosa du 98.5 et celui qui sera aux prochains Jeux olympiques pour l'équipe canadienne, Mark Barberio, qui est avec nous. Salut Mark!
Salut!
Hey Mark, d'un premier temps, il y a eu tellement une annonce qui a été un peu floppée parce que la Fédération internationale a sorti l'alignement une journée avant que Hockey Canada annonce tout ça. Mais quelles ont été les réactions des gens qui t'entourent? Ta réaction à toi de savoir que tu allais participer aux Jeux olympiques de Pékin?
C'était un appel spécial de recevoir. Écoute, c'est quelque chose dont je m'attendais jamais à avoir cette chance-là de représenter notre pays, puis j'étais juste trop excité, trop fier, et tout de suite mes parents et ma famille au Canada pour leur dire les bonnes nouvelles.
Mark, est-ce que tout de suite t'as su que lorsque les joueurs de la Ligue nationale n'y allaient pas, qu'il y avait des chances que tu sois appelé, ou même à ce moment-là, tu n'y pensais pas du tout?
Je savais qu'il y avait des chances, parce que même avant qu'on a su que les joueurs NHL iront pas aux Olympiques. Hockey Canada a été préparé avec une longue liste, la façon qu'il appelait ça. Alors, j'étais sur cette liste et après, je sais que si je jouais bien et oui, il y avait des chances que je pourrais faire cette club, cette équipe. Mais en même temps, tu prends pour acquis. On sait qu'il y a toujours des bons défenseurs partout dans le monde, même qui jouent pas dans la NHL, en Europe, puis en collège, junior. Alors, tu sais jamais, mais comme j'ai dit, j'étais vraiment fier de recevoir cet appel.
Salut Marc, Guillaume Lefrançois ici de la presse. J'ai fait un calcul l'an passé quand la formation d'Équipe Canada a été dévoilée. Et si Équipe Canada jouait dans la Ligue nationale, ce serait la plus vieille équipe de la Ligue nationale. T'sais, il y a quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de joueurs dans la trentaine. Toi qui as connu justement, qui a connu des équipes quand même jeunes aussi là, avec l'Avalanche entre autres, est-ce que ça te fait particulier un peu d'être dans ce groupe-là de joueurs puis d'avoir autant de gars qui sont plus vieux que toi là?
Moi, je pense qu'on a une bonne équilibre entre des vétérans, mais aussi des bons jeunes joueurs qui ont beaucoup de promesses dans le game. Oui, on a, c'est quand même fou de voir la différence entre un gars comme Eric Staal qui a 37 ans, puis après tu vois le Owen Power qui vient d'être sélectionné premier overall et lui il a juste 19 ans, mais c'est quand même spécial de pouvoir faire une équipe avec autant de différences d'âge.
On s'entretient avec Marc Barberio, qui est présentement en direct de la Russie, messieurs, en passant, parce qu'il évolue dans la KHL, avant de se diriger avec Équipe Canada pour les prochains Jeux olympiques à Pékin. Marc, est-ce qu'on peut dire que c'est le highlight de ta carrière, ça, d'être nommé comme ça sur l'équipe canadienne?
Oui, oui, absolument. Comme je dis, je pensais jamais avoir une opportunité comme ça. Oui, quand t'es un enfant, tu rêves de ça. Tu sais, je me souviens de regarder les Olympiques chaque fois avec ma famille. Je me souviens de 2002 à Salt Lake. Puis oui, t'as ces rêves, mais en vrai, tu penserais jamais que ça deviendrait la réalité. Et maintenant, j'ai juste trois pour arriver là-bas et commencer le tournoi.
Dis-nous, Marc, est-ce que ça t'effraie toutes les mesures sanitaires, la Chine, la COVID, d'être pris là-bas, d'être isolé si jamais vous attrapez la COVID? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pensez?
Non. Je sais que je comprends qu'il va y avoir beaucoup de différentes choses à faire pour être sûr qu'il n'y a personne qui pogne le COVID et tout ça, mais... Non, moi, le but de tous les joueurs qui vont et tous les athlètes qui vont, c'est de bien représenter le pays. Et pour nous, en termes de les joueurs de hockey, notre but, c'est une médaille d'or. Puis on pense rien à ça.
Marc, je vais te sortir un peu là, du sujet des Olympiques parce que je trouve que tu es un gars très pertinent pour nous parler d'un sujet dont on a eu il y a une semaine, il y a deux semaines. Tu es un Québécois à prime abord qui parle, par exemple, l'anglais mieux que le français ou, à prime abord, disons, un Québécois à prime abord anglophone. Lorsque tu as vu la nomination de Kent Hughes en tant que directeur général du Canadien, mais aussi tout le débat qu'il y a eu autour de sa nomination, toi qui es un peu dans la même situation que lui, t'as vu ça comment?
Écoute, je sais que il est capable de parler français et je sais il est comme moi, il est plutôt anglophone. Honnêtement, ici en Europe, je suis beaucoup moins les nouvelles de NHL et surtout des Canadiens de Montréal, mais le bon gars pour le job, s'il le mérite, je pense que la langue ne devrait pas vraiment faire une différence. Peut-être que c'était un débat, j'en sais rien parce que j'étais pas au courant de ce qui se passait à Montréal puis au Québec, mais s'il le mérite, il le mérite.
Ouais. Marc, si t'as pas eu la chance d'avoir des nouvelles du Québec, c'est bien correct comme ça parce que la saison du Canadien. Ah! T'es au courant qu'ils connaissent une petite saison de boîte ou.
Ouais, ça, je les suis encore sur Instagram et je sais que c'est une saison difficile. Alors, tu manques ton capitaine, tu manques tes deux gardiens, je peux comprendre.
Marc, écoute, on va te laisser filer, mais juste savoir, d'avoir la chance de participer aux Olympiques, est-ce que tu vois ça comme un potentiel tremplin peut-être pour revenir dans la Ligue nationale de hockey?
Je sais pas. Honnêtement, je pense pas à ça maintenant. En ce moment, comme j'ai dit, ma tête est juste sur d'arriver aux Olympiques puis de bien performer pour le pays. C'est quand même fou de dire ça, mais ouais, c'est en ce moment, ma tête est juste sur de ramener une médaille d'or pour notre pays. Et le NHL, j'y pense même pas.
Marc, je voulais juste savoir, là, d'ici à ce que vous partiez pour la Chine, là, de quelle façon est-ce que vous, de quelle façon êtes-vous en contact avec les autres joueurs de l'équipe? Est-ce que vous avez des meetings virtuels tous les jours? Je sais que tu joues avec Jordan Wheel, avec Jason Demers, là, déjà, qui sont avec toi. Mais sinon, est-ce que vous avez une façon de garder le contact avec tout le monde pour commencer à former un groupe?
On est tous comme on est tous à Davos en Suisse en ce moment pour notre pré-camp avant de partir pour Pékin. Alors on est capable d'avoir des réunions, mais on essaie de séparer les groupes en trois et tu restes avec tes deux autres coéquipiers quand t'es au meeting puis quand t'es au repas d'équipe et tout ça. Mais non, les meetings sont pas virtuels.
Mais écoute, Marc, je te remercie du temps que tu nous as accordé, mais surtout apprécie qu'est-ce qui s'en vient, puis on te souhaite la médaille d'or avec l'équipe canadienne lors des prochains Jeux de Pékin. Marc Barberio, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, les gars.
Voilà, c'était Marc Barberio. Les gars, peut-être un dernier tour de table là-dessus.
Ben, tu sais, en 2018, j'ai couvert les Jeux olympiques à Pyeongchang, puis on était dans la même situation. Les joueurs de la Ligue nationale n'étaient pas là. Alors, tu sais, on se comptera pas d'histoire là, pour la qualité du tournoi de hockey. C'est sûr que c'est pas la même chose. C'est pas le même niveau, c'est pas le même intérêt non plus. Mais il y a quand même de sacrées belles histoires, puis ce sont des histoires individuelles. Et là, on vient d'en entendre une avec Marc Barberio. Il y en a eu beaucoup en 2018. Il y en aura d'autres cette année. C'est ça, au moins, qui est le fun, puis qui permet de trouver un point d'intérêt. C'est que tu as ce groupe de joueurs-là qu'à peu près rien ne laissait présager qu'ils se retrouveraient aux Jeux olympiques puis qui ont cette occasion-là. Et ça peut donner un tournoi qui est plein de surprises parce que je me souviens qu'en 2018, boum, l'Allemagne est arrivée tout à coup. L'Allemagne, de mémoire, s'est rendue même dans le match final. Et donc, tu sais, tu peux avoir des surprises. Alors, c'est quand même le fun à regarder.
Oui, définitivement. Mais savez-vous quoi? Moi, là, les Jeux de Pékin arrivent, là, puis je commence à oublier tout ce qui est la COVID, la politique. J'ai hâte de voir les compétitions sportives puis j'ai hâte de voir évoluer la formation canadienne. Messieurs, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Hey, je veux vous dire un énorme merci. Ça a fort intéressant encore une fois. Félix Quentin, merci d'avoir été
merci
là.
Merci Jérémy, merci Guillaume, merci Guillaume.
Guillaume Lefrançois, merci. Notre ami Philo, merci beaucoup Philo.
Ça fait plaisir.
Nous, on se donne rendez-vous. Écoutez bien, c'est mercredi prochain parce que là, le Canadien, là, après les deux matchs au week-end, c'est Edmonton-Columbus. C'est une semaine au grand complet. Il se passe rien. Fait que donc, on sera là mercredi prochain. On va aller voir un peu ce qui s'est passé du côté de la Ligue nationale, mais également s'il y a des mises à jour chez le Canadien. Mercredi prochain, donc le 2 février, on sera avec vous pour l'épisode 28 du balado Sortie de zone.